propos de ces invités par rapport à ce qu'on a dit, juste comme elle dit. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui. C'est au sujet de la fait de dire que l'animal n'était jamais, n'était jamais quelque chose. Et j'ai l'impression de quelques expériences de singes qui utilisent des instruments pour
casser. Oui, je sais.
Pas,
est-ce qu'ils n'ont pas imité?
Non.
Ce que le singe n'imite pas, c'est et au fond la question de l'usage. C'est là où c'est très difficile parce que évidemment quand on regarde les singes.
C'est ça m'étonne qu'un singe soit mieux de nous que c'est imité à un homme qui n'a
rien. Mais très vite il voit les hommes. Je vous ai vu une première fois.
Aux scientifiques qui ont vu l'expérience.
Mais oui, mais est-ce que les singes, je vous dis, c'est les mémoires de singes qui se communiquent. C'est très difficile de savoir ça. Vous voyez, alors, est-ce que moi je prends l'usage au sens fort, vous voyez, parce que je crois qu'on peut en effet faire des associations qui ne sont pas l'usage. C'est toute la question. La différence entre l'association qui est au niveau de la représentation où vous associez des choses et l'usage au sens fort qui implique une signification. Oui. C'est en ce sens-là que je dis l'usage probablement. Il ne faut pas se questionner de mots. Hein. Il y a des questions de mots. Il ne faut pas se corréler sur la question des mots. Parce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, il use un bâton.
D'accord,
il use un bâton. Mais usage au sens fort implique une signification et implique, la plupart du temps, un ordre par rapport à une fin.
Oui. Comment juger qu'il n'a pas cet ordre ?
Alors, c'est... Oui, c'est ça. Et au fond, je ne peux pas juger d'intérieur parce que je ne suis pas dedans. Vous voyez ? Je ne peux pas. C'est ça qui est terrible quand il s'agit des animaux. Je ne peux parler que métaphoriquement des animaux. Je ne peux pas faire la philosophie du singe. On peut faire la philosophie de l'homme. Mais la philosophie du singe, je la fais par rapport à l'homme. Et la mémoire d'un éléphant. Non, mais c'est très vrai, c'est prodigieux. Alors, tout ce domaine-là est très dit. Alors, au fond, on a dit à ce moment-là que la fameuse chose de l'estimative, c'est-à-dire, au fond, une espèce d'imagination qui était liée à l'utilité propre de l'animal. L'animal qui use d'un outil. Qui use d'un outil, mais usé dans le sens non pas en vue de la finalité, parce que là, c'est le véritable usage. Quand je prends usage au sens fort, c'est ça que je veux dire. Vous mais on peut faire une espèce d'association dans l'ordre de la représentation. C'est ça que je dis, c'est souvent une imitation. Est-ce que sans imitation, il y aurait ça? C'est pas complètement pas savoir. On ne peut pas savoir. On est dans un monde où l'homme existe. Et où l'homme, de fait, a eu une grosse influence sur les animaux. Ça, c'est sûr. Il y a cette influence sur les animaux, à quel moment, c'est très difficile. Oui. Alors, il suffit de s'entendre hein, un peu sur la question des mots. Si je prends avoir au sens propre, je dis, ça implique la signification et c'est propre à l'homme. Oui. Que chez l'animal, il y a des choses très très proches, et surtout chez le singe, il y a des choses très très proches. Alors, c'est un problème chez les rapports entre l'animal et l'homme. Vous voyez, que représente exactement ce qu'en disent certains aujourd'hui, l'intelligence de l'animal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une intelligence? Alors, si je prends intelligence au sens esprit, âme spirituelle, je ne crois pas. Parce que ça se détermine par un langage. Alors il y a un certain langage, il y a le cri de l'animal. Il y a un certain langage de l'animal. Et c'est vrai qu'il y a un certain langage de l'animal, mais ce n'est pas un langage dans le sens où on disait tout à l'heure, universel. Je ne crois pas. Donc, c'est un langage affectif. Il y a l'instinct. Alors, la communication dans l'ordre de l'instinct.
C'est aussi un langage d'imitation.
Oui, d'imitation. Oui,
c'est la chose.
pourrait passer à l'examen. Mais, alors, il y a des questions là. Si on prend usage au sens choix à l'égard d'une finalité, je crois qu'au sens fort, il y a de l'esprit. Alors, qu'il y ait chez l'animal des choses très proches dans l'ordre de l'association, c'est très vrai. Mais je crois qu'il y a quand même un passage. Et le passage se met au niveau de la signification. Et donc au niveau de l'universel. Mais je ne résous pas le problème. C'est un problème de mal. Et il ne pourra jamais être résolu. Parce qu'au fond, il ne pourrait jamais. Il faudrait pouvoir avoir un sage philosophe qui puisse me dire un petit peu sa réflexion et sa manière de choses. Et ce qui est très curieux, c'est. Moi, c'est ça qui me semble très curieux. C'est dans tout le monde. La réaction de l'homme vis-à-vis du singe et du singe de l'humain, c'est très étonnant. Comme le singe révèle à l'homme ce qu'il est, et comme le. Je ne sais pas si l'homme révèle encore au singe ce qu'il est, mais il est bien évident la présence du singe. Et j'ai des souvenirs étonnants dans des singes avec des psychanalystes. C'est extraordinaire, ça. On était fatigué de certaines discussions psychanalytiques, on allait au zoo. C'est extraordinaire, voilà. comme ça fait révéler des inconscients invraisemblables. Ça fait vraiment révéler des inconscients. Parce que je crois qu'en effet, c'est toujours impressionnant pour l'homme d'être sans un sein. C'est pas un espèce de. À la fois des similitudes étonnantes et en même temps une véhicule. Mais il y a des similitudes étonnantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors nous allons continuer. Je voudrais entrer aujourd'hui, justement un petit peu creuser ce problème de l'assimilation intentionnelle, de l'appréhension. Je crois que c'est important de comprendre cela, parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir essayer de rester toujours au niveau de votre réflexion personnelle et ne quittez pas votre expérience. C'est pour moi, alors vous perdez pédale. Et pensez tout simplement quand vous dites homme, animal, singe, animal. Vous voyez tel singe, vous réfléchissez sur le singe, vous réfléchissez sur l'animal. Et puis vous dites l'intelligence humaine, en effet, et le langage est là comme témoin, lorsqu'elle veut saisir ce qu'est une réalité et se sert des dix catégories. Et dans la deuxième, la dixième, la voir, c'est le fourre-tout. C'est la relation à l'égard des choses qui nous transforme et nous transforme. Alors, c'est le fourre-tout. Je dis qu'elle est propre à l'homme au sens fort, parce que c'est sûrement l'homme qui est le lieu de toutes les relations qu'il va avoir. Mais il y a des participations. Ça, je trouvais très bien. Vous voyez, il y a des participations du côté de l'animal dans le sens d'une certaine limitation. Bon. Et là, nous avons 10 déterminations. Et il faut se demander s'il y en a d'autres. C'est un très bon problème. Se demander s'il y a une 11e détermination à avoir. Ces déterminations que nous saisissons dans nos jugements. L'homme est capable de rire. Capable de rire. Qu'est-ce que c'est comme catégorie capable de rire? C'est une qualité. Il est capable de rire. C'est une qualité. L'homme est mortel. C'est à cause de sa quantité, à cause de son corps. Il est mortel. Et ainsi de suite. Toujours. Vous ramenez toujours à une catégorie. Donc vous saisissez ça, ça a une signification pour vous. Comment l'avez-vous saisi? Alors, il y a une solution qui consiste à dire, c'est inné. Certains philosophes vous disent, c'est inné. L'enfant, dans son berceau, il a toutes les catégories. Alors, on dit non, c'est impossible. Parce qu'il y a un phénomène qui montre qu'on apprend. On apprend. C'est le fameux problème du Ménon, dans Ménon dans Platon, vous savez, en disant c'est la règle. Vous n'apprenez pas à l'enfant ce qui est. Vous savez toute la grammaire, vous savez toute la géométrie, vous savez toutes les sciences, vous savez tout. Donc, je suis dit, vous le rappelez. Mais la réminiscence, vous comprenez bien, je ne peux pas l'affirmer d'une façon absolue. La réminiscence présuppose que, de fait, mon âme a existé avant mon corps. Alors, que vous vous rappelez de ça? Je me souviens, c'était un chauffeur de taxi à Paris, une fois comme ça. Et là, il dit, oh, moi, je suis grec. Dans mes ancêtres, je suis grec. J'ai joué à Athènes. Il dit ça très sérieusement. Après, quand il dit, est-ce que vous vous rappelez encore un peu de... Parce qu'il se rappelait très bien qu'il avait joué à Athènes. Mais quand il s'agissait de parler de la langue grecque, ça, il s'en souvient plus. Il se souvenait de certaines choses, mais d'autres choses, ce n'est plus du tout. Bon, c'est très bien, mais je crois qu'on ne peut pas établir philosophiquement le point de vue de la réminiscence de vous réfléchir sur nos expériences. Qu'il y ait certains phénomènes de réminiscence qui soient très très curieux, ça c'est possible. Mais établir ça comme un principe, qui est le principe qui explique tout, non. De fait, nous acquérons dans notre vie. C'est vrai qu'on acquiert des connaissances. On acquiert des connaissances. Je n'acquierais pas de connaissances humaines, on acquierait des universités. Mais ça, l'exercice n'est pas le fait. Alors, soit on acquiert des connaissances nouvelles, on acquiert des connaissances nouvelles, c'est un fait. On acquiert des connaissances nouvelles progressivement. Acquérir des connaissances nouvelles montre bien que ces connaissances ne sont pas données de façon innée. Et donc, on les acquiert par notre expérience. Et c'est notre expérience, ce contact que nous avons avec les réalités et avec les personnes qui font que petit à petit, ces connaissances, nous les assimilons. Il y a dans la connaissance intellectuelle ce procédé extraordinaire d'assimiler. On assimile. Le vivant est celui qui assimile. Et c'est même ce qui caractérise le vivant. Il fait que quelque chose qui était extérieur à lui, progressivement, devient lui. C'est s'assimiler. L'assimilation, elle est au niveau de la vie biologique, très simple. Hein. Vous ne vous posez pas tellement de problèmes lorsque vous prenez votre pâte de café, ou lorsque vous prenez votre pain, ou lorsque vous demandez à manger un buffet. J'assimile. Je mange, il est bon, il est mauvais. Enfin, si vous analysez, vous savez très bien que vous assimilez. Le vivant assimile. Il fait que quelque chose qui était extérieur devient progressivement à l'intérieur de lui. Phénomène extraordinaire. On n'a pas expliqué ce que c'était que la simulation. Hein. Le biologiste n'explique pas. Constate des faits. La science constate des faits. Et plus grand savant, on constate. On explique. On constate. On voit. On donne des lois. En disant telle chose commande telle autre. C'est tout. Des lois qui impliquent des lois. Non, c'est pas ce que c'est l'assimilation. C'est absolument pas le vivant assimile. Hein, le problème d'un vivant. Et quand le vivant n'est plus très vivant, il assimile moins bien. Vous savez, quand vous êtes trop fatigué, hein, et qu'on vous dit mange, et vous n'avez pas envie de manger, et qu'on vous oblige de manger, hein, c'est une drôle d'histoire. C'est vrai, le vivant, quand il est fatigué, n'assimile plus. Et quand il est très très fatigué, il n'assimile plus. Il y a un moment donné, il meurt, il n'assimile plus. Et quand il est pleinement vivant, il assimile. Il assimile parfaitement. Il assimile à des niveaux différents. Il assimile au niveau biologique l'aliment. Il assimile au niveau sensible. Quand je vois une rose, je deviens la rose. Hein. Façon très particulière. Je ne suis pas la rose pour mon voisin, mais je vois la rose et je la porte aux deux dans le bois. Vous voyez, je deviens cette couleur, je vois cette couleur, c'est très curieux ça. Je deviens ces réalités que je vois. Il faut bien. Ce que je vois, je les connais. Quand j'écoute, j'entends quelque chose et je le porte en moi. Donc il y a une assimilation au niveau sensible, dans la connaissance. Quelle différence y a-t-il entre l'assimilation de la connaissance et l'assimilation biologique? C'est que dans l'assimilation biologique, lorsque je me nourris, un autre ne peut plus se nourrir après moi. Enfin, c'est ça qui est très inconvénient. C'est pour ça que la nourriture est source de toutes les luttes. Toujours, hein, c'est au niveau biologique qu'il y a tout ce qu'il faut. Il faut prendre le premier, le beefsteak, que vous aussi. Si vous ne le prenez pas le premier, qu'un autre le prend avant vous, il n'y aura plus. Si vous divisez la tarte en 12 et qu'il y en a plusieurs autres qui arrivent, il faut les rediviser. et les portions seront moindres. Le propre de l'aliment, c'est que, de fait, le vivant, en assimilant, il assimile d'une manière terriblement égoïste. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un vivant. Il mange pour lui, que voulez-vous, il va pas manger pour un autre. Quand vous dites à votre voisin, tu es fatigué ce matin, reste couché, je vais prendre mon petit déjeuner pour toi. C'est impossible. Absolument pas. Vous ne pouvez pas. La vie biologique est liée à l'individu, elle est liée à notre propre égoïsme foncier. C'est extraordinaire de voir l'égoïsme du vivant. Je me souviens, c'était quelqu'un qui avait une espèce de sens des choses en disant « je ne comprends vraiment pas qu'on s'assemble pour manger ». C'est tellement effrayant. Il disait ça sérieusement. C'est tellement effrayant de voir cet égoïsme de chacun qui mange pour lui. Et on fait ça en commun. C'est quand même effrayant, quoi. Cette espèce de vision de chacun qui mange pour soi son bifteck. Et alors évidemment, on fait ça proprement, c'est pas, mais quand même, chacun, on mange. Un égoïsme forcené de chacun. Et c'est vrai, il y a un égoïsme forcené de chacun quand il mange. Au moins, quand vous regardez une rose, vous la mangez des yeux. Mais elle reste la même, un autre peut la regarder. C'est beaucoup plus, merveilleux. Hein. C'est très curieux. La connaissance amène cette chose qui est un au-delà de l'égoïsme. Dès que je vis au niveau de la connaissance, ce n'est plus l'égoïsme. C'est important de saisir ça. C'est très très important de saisir ce niveau nouveau de la connaissance. J'assimile, je connais. Je ne sais pas très bien comment ça se fait, hein. Et on n'expliquera pas non plus, vous savez, c'est quand même très curieux. On pourra vous dire la manière dont on vous voyait, la manière dont vous pouvez voir, les angles sous lesquels vous pouvez voir, tout ce qui change, tout le conditionnement de votre vision, on le dira. Mais la vision elle-même, on ne l'explique pas. Voir. On vous dira les conditions nécessaires pour voir, mais qu'est-ce que c'est que la vision? Qu'est-ce que c'est que voir? Quand même très très curieux. C'est au moment où vous ne voyez plus que vous apercevez que c'est quand même un phénomène extraordinaire de voir, un phénomène d'entendre. Voir, entendre, on assimile quelque chose de particulier. Quand vous avez vu une très belle lumière, ça vous frappe. Quand vous avez vu une très belle couleur, ça vous frappe. Quand vous avez entendu un son merveilleux comme qualité, vous l'assimilez. Et puis il y a l'intelligence qui assimile. C'est ça qu'on appelle l'assimilation intentionnelle. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que ça, c'est un mot classique qu'il faut comprendre, l'assimilation intentionnelle, l'intentionnalité. C'est très à l'ordre du jour, du reste. Hein. Donc, il faut savoir ce que c'est que l'intentionnalité, et comprendre l'intentionnalité à des niveaux différents, et comprendre pourquoi on a dû inventer ce mot. Parce que chaque fois qu'on invente un mot, il faut savoir pourquoi, pour en savoir la signification profonde. Quand vous assimilez un bifteck, vous n'allez pas dire « j'assimile intentionnellement ce bifteck ». Non. Vous l'assimilez biologiquement. Quand vous avez faim le matin et que vous passez devant une boulangerie et que vous humez, c'est merveilleux comme ça sent bon. Alors on va dire « reste là 10 minutes, tu n'auras pas besoin de prendre ton petit déjeuner ». Non, vous ne direz pas du tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'intentionnalité de l'odorat, l'intentionnalité de la connaissance, est point de vue biologique. Et pourtant, c'est bien plus noble. C'est bien plus noble de sentir l'odeur merveilleuse du petit pain tout frais, que de le manger. Parce qu'au moins là, je ne suis pas égoïste. Un autre peut passer, évidemment, il y a des places de choix, c'est évident. Il y a un lieu, il y a un situs. Il y a une situation privilégiée, c'est évident, si je peux être tout près. Mais je peux partir, hein, le petit pain n'est pas mangé parce que le boulanger va me dire « Eh, il faut vous payer le petit pain, vous l'avez senti. » Pas du tout, j'ai le droit de sentir. Hein. J'ai le droit de sentir le petit pain. si je le mange, c'est autre chose. Donc, vous voyez, il y a là deux assimilations totalement différentes. Totalement différentes. Et puis, il y a la connaissance qui connaît, qui assimile. Quand je connais, j'assimile. Troisième assimilation, tout à fait autre chose. C'est très important de comprendre ça. Dans l'assimilation biologique, vous faites que la réalité qui est extérieure soit en vous. Et vous la détruisez pour l'assimiler. Ça, c'est la condition sine qua non de toute assimilation biologique. On doit détruire cette réalité pour l'assimiler. C'est extraordinaire, ça. C'est une chose très très mystérieuse. Hein. Ce qui explique toutes les luttes. Toutes les luttes proviennent de ça.
Il faut bien voir, hein, l'espace vital. Vous n'avez qu'à regarder du reste. Regardez dans la nature encore, quand vous voyez comment le lion qui vit en famille, vous savez bien, le lion vit en famille, c'est un animal très 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 propre à la famille. Alors quand le lion tue à l'heure du repas, quand il a faim, parce qu'il tue quand il a faim, c'est un animal qui n'est pas méchant et qui est royal, parce qu'il tue pour manger, c'est royal. Il tue pour manger, il ne tue jamais autrement. Il ne tue que pour manger, c'est pour ça que quand il a bien mangé, il n'est pas méchant. Bon, il peut vous donner des petits coups de pattes amicales qui vous feront mal, c'est autre chose. Mais c'est, il est bon. C'est un animal qui est bon. Il tue pour manger. Il tue uniquement quand il a faim. Et comme il est royal, tout le reste lui appartient. Tu vois, et il donne un sort aux autres animaux qu'il mange. Mais il faut détruire pour manger.
Faut-il vraiment détruire ou faut-il plutôt transformer?
Et voir, et le petit que vous transformez, il est détruit. Il est ennobli. Quand vous mangez le beefsteak, vous voyez que vous ne le détruisez pas. Il est transformé en vous, alors il est ennobli. Oui, il est passé de l'animal, alors c'est quand même mieux. Oui, mais c'est quand même détruit. Le petit poisson mangé par le gros poisson, il est quand même détruit.
Il assimile, il le fait sien.
Oui, et lui donne un sort admirable en disant, mon petit, tu es ennobli parce que maintenant tu vis dans un plus gros que toi. Vous voyez ? Alors, il est quand même détruit. Tandis qu'au contraire, dans l'assimilation intentionnelle, vous voyez, il est détruit. Il y a une finalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une finalité. Donc, il n'est pas détruit pour être détruit, il est détruit pour servir à un autre. Mais vous savez, pour le plus petit, c'est pas drôle. Il y a une situation quand même un petit peu délicate d'être ennobli par un autre, et pour être ennobli par un autre, il doit quand même passer par la broche, n'est-ce pas? Alors, tandis que dans l'assimilation intentionnelle, vous ne touchez pas à l'autre, c'est vous qui êtes atteint. C'est quand même très curieux ça. Alors, ça, c'est propre de la connaissance. Et la connaissance ne tue pas. La connaissance est capable, ça reste mystérieux, ça reste quelque chose de très très difficile à comprendre, et auquel il faut tout le temps venir, c'est un problème très très fondamental. La connaissance est capable de s'enrichir sans détruire l'autre. En regardant quelque chose de merveilleux, je m'enrichis. Je me souviens, un voyage en Grèce, ça m'est resté parce que c'était quand même quelque chose... Je faisais ce voyage en Grèce avec le sculpteur, vous savez qui a sculpté là, ici, l'hôtel de l'université, là, qui était de Genève, un sculpteur merveilleux, étonnant. Et on se connaissait bien, on s'aimait beaucoup. Et là, il dit, on fera un voyage en Grèce. Alors, c'est toujours intéressant de faire un voyage en Grèce avec un sculpteur, parce qu'il connaît ça mieux que nous. Tout d'un coup, j'étais dans une île, je reçois un coup de coude en pleine poitrine, c'était lui. Il dit, regardez cette déesse! Alors, il voyait une déesse passer. Pour lui, c'était une déesse. C'était une grecque avec de très très beaux yeux, évidemment. Très très beaux yeux. Alors, c'est extraordinaire. C'est de rire. Oui, il a mangé des yeux. Mais il a laissé intact, de sorte que moi, je pouvais la regarder. Le phénomène de la connaissance. Quand je connais, je suis modifié, et quelquefois même jusque dans mon affectivité. Parce que c'est une répercussion affective. N'est-ce pas ? Donc je suis modifié jusque dans mon affectivité, et ce que je connais l'objet. Vous voyez, là apparaît l'objet. L'objet n'est pas modifié. Il peut rougir, parce que je le regarde, c'est évident. Il peut changer de couleur, mais il n'est pas modifié, c'est autre chose. Une espèce de télépathie, oui, quand on voit tout le monde regarde, on est un peu gêné, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas bougé le hasard. Aucune attention. C'est le propre d'une déesse, hein, de ne pas faire attention aux adorateurs. Et donc c'est de passer son chemin sans bouger. Alors, dans une perspective, tout à fait. L'objet apparaît là, vous voyez, l'aliment, pour Aristote, c'est le premier analogué de l'objet. C'est très cool. L'objet, c'est ce qui se situe en dehors, qui est capable de transformer la connaissance, de la déterminer. Et la connaissance assimile l'objet. On assimile cette couleur rouge, on assimile cette figure, quand on la regarde attentivement, on assimile cette lumière, on la devient. On la devient intentionnellement. Alors j'insiste sur le mot intentionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intentionnel? Alors ici, faites un petit nota bene, parce que ça vaut la peine pour essayer de saisir ce que c'est que l'intentionnalité. C'est un mot qui est très difficile et qui prendra du reste des significations différentes. Hein. Chez Brentano, chez Husserl, ou chez Aristote et chez saint Thomas, ça prend des significations différentes. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on voit ce thème de l'intentionnalité à travers toute la philosophie. Après toute la philosophie, vous trouvez l'intentionnalité. Comment le mot intentionnalité est-il né? Et à partir de quoi il est né? Bien, je crois que le premier moment d'intentionnalité, c'est pour essayer d'exprimer la différence qui existe entre le vivant et l'être. Le décalage qui existe entre les deux. Vous direz que dans une semence est contenu virtuellement, intentionnellement, tout le vivant. Quand on dit maintenant, c'est pas que dans le premier moment de la conception, le chiffre de l'homme est donné. Il est donné virtuellement. Il est donné intentionnellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire virtuellement, intentionnellement? Ça veut dire que ce vivant possède en lui-même, dans un état de densité que nous ne connaissons pas, du reste. C'est difficile de connaître l'intentionnalité. On connaît l'intentionnalité dans son développement. Quand vous regardez les plantes, vous ne voyez pas le chêne. Même si vous le regardez avec un microscope, vous ne verrez pas le chêne, c'est sûr. Et pourtant, tout le chêne est contenu dedans. Vous voyez la différence entre la vie et l'être. Comment la vie possède une intensité tout à fait particulière qui fait que tout le développement progressif est déjà présent. La semence existe. Et elle existe comme une semence, comme une promesse de vie. Et elle existe comme une promesse de vie, c'est-à-dire elle existe intentionnellement. Une promesse est une intentionnalité. On commence à comprendre. Une promesse est une intentionnalité. Une promesse, ce n'est pas la réalité. Je te promets ça, je te le donne jamais. C'est très bien une promesse. C'est encore la chose. La promesse est une intentionnalité. C'est une intentionnalité. C'est de l'ordre de l'intentionnalité. Avoir un projet. J'ai l'intention de faire quelque chose. J'ai le projet de réaliser quelque chose. C'est de l'ordre de l'intentionnel. Ce n'est pas encore la réalité. Alors, vous allez trouver l'intentionnalité à tous les niveaux de la vie. L'intentionnalité au niveau de la vie biologique, la semence, contient toute la promesse de la vie de la plante, du vivant. Vous trouvez l'intentionnalité au niveau de la connaissance sensible. Vous dites, quand vous regardez une fleur, que vous devenez l'écarlate de cette fleur. Votre œil voit le rouge. Intentionnellement, vous voyez le rouge. Et intentionnellement, vous êtes modifié par cela. Vous êtes modifié. Vous êtes modifié. Quelquefois physiquement, mais c'est pas la modification physique qui explique la connaissance, c'est l'intentionnalité. Et alors au point de vue de la connaissance intellectuelle, c'est la même chose. Au point de vue de l'amour, c'est la même chose. L'amour est de l'ordre de l'intentionnalité. Aimer quelqu'un, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Autre chose est aimer,
autre chose est la réalité profonde qui se réalisera progressivement dans la mesure même où notre amour est vrai. Oui, la promesse et la réalisation. Donc qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité? L'intentionnalité, c'est donc une forme, on peut dire que c'est une forme, une détermination. Quand je dis forme, ça veut dire une détermination réelle. Hein. Une forme ordonnée vers un autre. Tout entière ordonnée vers un autre. Une espèce d'ordre transcendantal, vous voyez. C'est une forme qui est tout entière tournée vers l'autre. Une forme qui est porteuse de l'autre. Déjà, l'autre est présent dans tes intentionnalités. Et c'est tout entier tourné vers l'autre. Mais ce n'est pas l'autre dans sa réalisation plénière. On tend vers l'autre. Donc l'intentionnalité va toujours impliquer quelque chose d'imparfait. Toute intentionnalité, c'est quelque chose d'imparfait. Je ne peux jamais, c'est pour ça que je dis la promesse. Hein. La promesse, elle attend la réalisation. Tu m'as promis ça tel jour, hein, j'attends la réalisation. Alors si l'autre dit pas du tout, bon, du coup, la promesse est suffisante, pas du tout. La promesse est c'est imparfait. La réalisation, c'est autre chose. Quelquefois, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. On vit plus du désir que de la réalité. Là, ça arrive. Les gens qui vivent du désir beaucoup plus. C'est pour ça que des fois, les fiançailles sont plus belles que la réalité. Ouais. Parce que c'est le désir. C'est le désir, c'est l'intentionnalité. Alors il peut y avoir à ce moment-là l'idéal qui commence, hein, l'imagination. L'imagination, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Et puis la réalité des deux pieds sur terre. C'est deux choses différentes. Oui. Donc l'intentionnalité, c'est mystérieux l'intentionnalité. Et voir toutes les modalités d'intentionnalité, c'est quelque chose que nous portons en nous. C'est toujours l'immanent, c'est l'intentionnalité. C'est toujours dans l'immanent du vivant. C'est toujours l'immanent vivant. C'est pour ça que je dis, c'est le décalage qui existe entre le vivant et le réel. L'intentionnalité montre que le vivant devance le réel. Il a la possibilité de devancer le réel. C'est extraordinaire. Le vivant, il devance. Et il porte en lui quelque chose de plus que la réalité actuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il devance. Et vous l'avez alors à tous les niveaux. Dès que la vie existe, il y a un décalage entre la vie et l'être. Alors ça c'est très important parce que ça nous fait comprendre la distinction qui existe entre l'être et la vie. Sous un certain aspect, la vie est un être plus parfait que le non-vivant, c'est bien évident. Et sous un autre aspect, la vie est dépendante de l'être. Il y a une espèce de relation entre les deux, entre ce qui est et le vivant, qui est une relation très particulière. Et ce qui explique comment le vivant peut devancer le réel, c'est qu'il possède en lui une possibilité de projet. Un projet. Oui, et la science reconnaît ça. Hein. C'est pas uniquement c'est les philosophes qui inventent, pas du tout. La science reconnaît que le vivant possède dès le premier instant de sa conception, il y a le projet. Il y a le nombre de l'homme. Il y a quelque chose de particulier. Alors, le savant le détecte au niveau proprement biologique. Il le détecte pour la semence. Le philosophe le détecte au niveau connaissance. Alors, le savant ne peut plus le détecter. Au niveau connaissance, nous disons qu'il y a une intentionnalité, parce que le savant regarde toujours le monde matériel. Et là, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose qui nous fait entrer dans un autre domaine, qui n'est plus le domaine matériel, qui est le domaine proprement de, on ne peut pas dire spirituel, parce que mais un spirituel sensible. La connaissance, c'est un spirituel sensible. C'est quelque chose qui est au-delà du physique et qui reste sensible. Et il y a ce domaine de l'intentionnalité de la connaissance. Qui est dépendant du physique, mais qui n'est pas le physique. C'est dépendant du physique parce qu'il y a l'organe. Et vous pouvez modifier l'organe. Très bien rendre quelqu'un aveugle, hein, tout simplement, en abîmant son organe biologique, hein, vous pouvez rendre aveugle. Mais c'est la vision ne s'explique pas par l'organe. La vision s'explique par autre chose que l'organe. Et c'est pour ça que le philosophe va poser au-delà de l'organe
capacité, une dynamisme, une puissance qui est capable de voir. Et si l'organe est fatigué, eh bien, la puissance de voir diminuera. Et on peut avoir les yeux fatigués, et alors en raison même des yeux fatigués, ne plus voir avec la même acuité, c'est la même chose. Quoi. Tandis que l'intelligence, elle, n'a plus d'organes. Et l'intelligence, elle, est capable de dépasser le domaine proprement sensible pour entrer dans ce domaine spirituel. C'est pour ça qu'on dira assimilation intentionnelle de ces déterminations. Donc je deviens ces déterminations, je les porte en moi. Dès que je pense la qualité, dès que je réfléchis sur la qualité, je porte en moi cette détermination de la qualité. Dès que je porte la quantité, je porte en moi cette détermination particulière de la quantité. Dès que je pense la relation, je porte en moi. Nous portons dans notre intelligence. Dans notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus élémentaire, puisque c'est l'opération élémentaire et première d'intelligence. Mais c'est en même temps l'opération la plus vitale, puisqu'elle est élémentaire. C'est l'assimilation, le désir de l'intelligence de saisir, de contacter, de toucher ces diverses déterminations et les saisir proprement. Cette assimilation, comment va-t-elle se faire? Je pose toujours le problème du comment. Comment va-t-elle se faire? Comment je puis devenir ces différentes déterminations? Comment ces déterminations vont-elles être présentes en moi? Pour qu'il y ait assimilation? L'assimilation, c'est toujours une œuvre commune de l'aliment et du vivant. Vous n'assimilez le beefsteak qu'en vous le mâchez. Donc, il faut qu'il soit présent en vous. C'est une œuvre commune. Chose pour le pain. Vous assimilez l'odeur, la couleur, quand elle est présente. Ça, c'est très mystérieux. Comment peut-être présentante? On va pas le faire ici. Ça, c'est très très difficile. Vous assimilez ces déterminations à partir de quoi? À partir de l'image qui vous représente tel ou tel animal. Toujours. Dans toutes vos connaissances intellectuelles, il y a une image. Il y a un fantasme. Vous ne pouvez pas connaître intellectuellement sans fantasme, sans image. Toujours, toujours. Les connaissances les plus spéculatives, les plus métaphysiques, les plus profondes, impliquent toujours une image. C'est très important de comprendre ça. Ça vous a fait l'expérience. Réfléchir un instant. Réfléchissez profondément, et quand vous voulez réfléchir profondément, vous avez la signification d'une chose, il y a toujours un petit fantasme, une petite image. Quand vous réfléchissez sur chien, profondément sur chien, la signification du chien, la signification de l'animal, il y a toujours un petit fantasme. Donc, votre assimilation se fait à partir d'une image, vous bien comprendre, à partir d'une image qui représente tel ou tel animal. Qui représente telle ou telle chose. L'image représente. Elle représente cette réalité concrète. Cette assimilation intentionnelle se fait à partir de l'image, avec le concours de l'image. Mais l'image n'est pas présente à l'intelligence, puisque l'image demeure toujours liée à un organe sensible. L'imagination. Toujours. Comment expliquer que de l'image, il puisse y avoir telle détermination qui vient déterminer l'intelligence et permettre à l'intelligence d'assimiler, donc de connaître la qualité. Je peux connaître la qualité, je peux connaître la relation, je peux connaître la passion. Comment va se faire ce passage-là? Vous voyez, c'est là le gros problème, parce que là, je n'ai absolument aucune. Je constate que j'ai des images, toujours. Dès que je pense à la qualité, j'ai toujours une petite image. Dès que je pense à la quantité, j'ai toujours une petite image. Là, les images ne manquent pas, dans l'ordre de la quantité. Bon. Dès que je pense à la relation, tout de suite. C'est très curieux, extrêmement curieux de voir que toujours, il y a une image. Quand vous pensez toujours, il ne peut pas être autrement. Et cependant, l'image est de l'ordre de la représentation et la connaissance est de l'ordre de la signification. Comment se fait ce passage ? Là, on est bien en face de deux domaines, et ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. L'image, c'est la représentation, et puis subitement, quand je connais vraiment, quand je pense, simplement penser des sens, ici je suis au niveau de la pensée, et au niveau de l'intelligence qui pense. Quand je pense, je signifie quelque chose. Passage, représentation, signification. Comment se fait ce passage ? Et ça, c'est un gros problème. Hein. Comment se fait ce passage ? Et là, c'est là où on a été obligé de voir que le passage de la représentation à la signification va impliquer un phénomène d'abstraction. Un phénomène d'abstraction. Je suis obligé d'abstraire. Je laisse tomber certains éléments pour obtenir uniquement certains autres. Abstraire, c'est ça. Abstraire implique une illumination et un abandon. Vous voyez, dans Saint-Augustin, on parlera de l'illumination. Et dans Saint-Thomas, on parlera de l'abstraction. Mais toute abstraction implique une illumination. Et toute illumination implique une abstraction. Pensez à son et lumière. Quand vous regardez église que vous regardez, ou château que vous regardez, ou quelque chose que vous regardez dans la nature, vous projetez une lumière sur quelque chose. Le reste est dans les ténèbres. C'est ça l'abstraction. Vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Donc le passage de l'image à la signification implique une illumination et un rejet. Comment va se faire cela ? Il faut qu'au-dedans de nous-mêmes, nous ayons donc de l'intelligence, une intelligence qui veut connaître. Nous avons donc en nous la possibilité, c'est ça qui me semble très important, pour connaître, ça demande un effort. C'est sûr, vous ne vous mettez pas tout de suite au niveau de la signification, ça demande un effort, vous devez réfléchir. Vous passez de la représentation, ça demande aucun effort. Tout le monde peut se représenter les choses. Aucun effort. Pour ça, quand on est fatigué, ça fait bien, ça se dit couramment. Un magazine de représentation, regarde ça, ça va très bien. Mais ça sent beaucoup mieux. Dès qu'il y a des articles un peu plus difficiles, oh, ça sent mieux. Parce qu'il faut quand même réfléchir. Tandis qu'au contraire, la représentation, ça va très très bien. Pas besoin d'effort. Réfléchir. Il y a une réflexion. Alors, la réflexion, c'est justement se servir de l'image pour saisir dans l'image la signification profonde qui est impliquée dedans. Donc les déterminations profondes qui sont impliquées dans l'image. Les déterminations qui sont liées à la réalité, puisque l'image projette à la réalité existante. Saisir ces déterminations qui proviennent de la réalité pour essayer de les saisir, de les comprendre une à une. Les 10 catégories sont présentes dans l'image et je les connais successivement. Voilà le phénomène de l'abstraction. Je connais telle détermination, je connais telle autre détermination. Et, alors, je mets ça en pleine lumière, il y a un passage du tout. L'image est toujours quelque chose qui est une totalité. C'est un tout confus qui représente, plus ou moins confus qui représente. Et de là, il y a l'intelligence qui illumine cette image, qui l'éclaire et qui me fait saisir telle ou telle détermination. Alors, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'Aristote a appelé, ce que saint Thomas va reprendre en disant qu'il y a donc en nous l'intelligence active, ce qu'on dit l'intellect actif, qui illumine l'image de l'intérieur, c'est de nous-mêmes, mais quand nous voulons connaître, hein, ça exige cette attention. S'il n'y a pas d'attention, on reste au niveau de la représentation. Et si on veut connaître, il y aura cette illumination de l'image pour qu'à partir de là, il va y avoir telle ou telle forme intentionnelle qui va déterminer mon intelligence pour lui permettre l'assimilation. Et faut que l'objet soit présent à l'intelligence pour que l'intelligence puisse décider.
Bon, nous reprendrons ça la fois prochaine. Parce que c'est important de saisir ça et à partir de là, de saisir ce qu'est le concept. Et tout ça, c'est pour vous montrer ce qu'est le concept. Assister à la naissance du concept.